Je ne vais pas présenter le père Pierre Gervais. Il est jésuite originaire du Québec. Mais je crois qu'il est bien installé en Belgique. Il fait moins froid en Belgique. Voilà. Et alors, non, j'ai demandé au père Gervais de nous introduire à la dernière partie de notre cours du soir. Vous savez que notre cours du soir a quatre parties. La première partie, c'était comprendre, c'était essayer de réfléchir l'acte de foi en lui-même. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on dit « je crois » ? Et puis, on a la deuxième partie, c'était professer. Quel est le contenu de la foi ? La troisième partie, qui était un peu réduite, il est vrai, c'était agir. La foi et l'action. Montre-moi ta foi qui agit, dit Saint Jacques. On a réfléchi sur le lien entre la foi et la morale, et le lien entre la foi chrétienne et les autres religions. Mais la foi nous pousse à l'espérance. Et quel est l'aboutissement de la foi ? C'est la vie éternelle, mais c'est sous le mot même de l'espérance que on peut envisager la foi en la vie éternelle. Il y a un article du Credo qui nous parle de cela, qui nous parle des fins dernières, comme on dit. Et puis, la semaine prochaine, le père Thierry Levens, le président de l'IET, eh bien, conclura notre cours du soir avec la vie éternelle qui est déjà commencée, les fins dernières qu'on atteint déjà, en quelque sorte, dans la prière, dans la vie mystique, dans la foi nue. Quelquefois, on parle de la foi nue. Ce sera le père Thierry Levens qui nous parlera de la foi et de la vie dans l'esprit. Mais pour ce soir, vous avez vu la feuille de route. Eh bien, tout ce qu'on voulait savoir sur la vie éternelle, nous allons le découvrir maintenant avec le père Gervais. Merci à toi.
Donc, le titre de cette heure, c'est « Je crois en la vie éternelle ». Donc, cette heure qui nous fait rentrer par la porte de la foi nous met devant ce qu'on a appelé les fins dernières, c'est-à-dire finalement les réalités définitives. Elles sont au nombre de quatre. La mort, le jugement, l'enfer, le ciel, auxquels on peut ajouter le purgatoire en espérant qu'il ne dure pas trop longtemps. Mais enfin, malgré tout, le purgatoire est une réalité donc provisoire. Chacun de ces énoncés de foi, objets, est un énoncé de foi. Donc, nous travaillons ce soir dans du béton. Tout cela est d'ordre. Le purgatoire, aussi bien que l'enfer, que le ciel, que le jugement, et alors le fait même de la mort. Bon, c'est bon de se le dire. Ça fait notre petit catéchisme pour votre génération comme pour la mienne. C'était les réalités, c'était les références. Si on regarde, eh bien, au moins, si vous regardez autour de vous, et peut-être même, eh bien, par rapport à vous-même, eh bien, nous n'avons plus le terme, nous sommes un peu sans moyens pour parler de ces choses. L'enfer, pour la plupart des gens, c'est impossible, Dieu est bon. Voilà. Le purgatoire, ça nous l'avons sur terre, donc pas beaucoup de sens à ce mot de purgatoire. Alors, le jugement, quel est le prédicateur qui va vous parler du jugement ? Tout de suite, ça éveille l'idée d'un Dieu justicier, plus ou moins vengeur. Bon, à la trappe. Mais il ne reste plus grand-chose. Il reste le ciel, bon, mais encore là. Vous le voyez de façon généreuse, mais assez vague. Pour ceux qui y croient, même comme chrétiens, parce que vous avez des chrétiens qui sont là, il faut se dévouer, il faut prendre la cause du Christ, de Jésus et tout ça, mais l'au-delà, on n'en peut rien dire. Donc, vous le voyez, nous sommes là devant des énoncés de foi de l'Église, et en même temps, depuis 50 ans, parce que c'est récent, depuis les années 60, et qui sont devenus pratiquement hors commerce. Bon. Et donc, du coup, je dirais ce soir, je vais parler. Il se peut que vous ne soyez pas d'accord avec tout ce que je vais dire. Mais je dirais que ce soit l'occasion au moins de se mesurer à ce que l'Église dit. Voilà. Et alors, parce que en même temps, c'est la seule façon de pouvoir, notre devoir, chacun sa façon, de pouvoir rendre compte de notre foi. Donc, voilà un peu cette séance. Cette séance n'est pas seulement de ce point de vue-là une conférence. C'est un test qu'on se donne à chacun, jusqu'à quel point ces énoncés de foi nous parlent encore, ou encore peuvent être entendus. Peuvent être entendus et nous dire quelque chose sur nous-mêmes. Parce qu'au fond, vous le voyez, tout ce qui concerne ces réalités dernières ne font que dire, sous le mode du définitif, peut-on dire, ce qu'est notre condition de chrétien ici-bas sur terre. Autrement dit, c'est pas seulement une information sur l'au-delà, mais à travers cela, comme à travers un miroir grossissant, eh bien, ce qu'est notre vie chrétienne ici-bas. En même temps, il est bon de se dire que c'est peut-être un travail pour nous, pour chacun d'entre nous, pour arriver à s'approprier ces énoncés, à y voir finalement eh bien, la force de vie qu'il y a. Il est bon de se dire que, en même temps, c'était le cas. Si on regarde dans l'histoire, Ancien Testament, le Nouveau Testament, je prends le cas de la mort, par exemple. Ben, c'est assez surprenant qu'alors que toutes les civilisations ambiantes, pensons en particulier à l'Égypte, toutes les civilisations ambiantes avaient des rites funéraires, avaient une certaine idée de l'immortalité de l'âme, eh bien, jusqu'au 7e, 6e siècle, eh bien, Israël, eh bien, devant l'au-delà, n'avait pas d'autre mot que de dire que c'est un pays d'ombre, un pays, si on peut dire, larvaire. Je vous lis un texte ici. Je t'appelle Yahvé tout le jour, d'ailleurs, c'est le psaume 88 qui est marqué là. Je tends les mains vers toi. Pour les morts, fais-tu des merveilles? Quelle ombre se lève pour te louer? Donc, un mort est une ombre. Parles-tu de ton amour dans la tombe? C'est la tombe. Parle-t-on de ton amour dans la tombe, de ta fidélité au lieu de perdition? Vous le voyez, tout ce qui était du domaine de l'au-delà, pendant longtemps, a été quelque chose que Israël n'était que sur le seuil et ne pouvait pas comprendre. Je dirais, encore de nos jours, même pour vous peut-être, pour beaucoup de chrétiens, ou tout de même, de pouvoir dire quelque chose de par-delà la mort, laisse comme sans moyen, mais disons, il y a une place dans l'Ancien Testament. Et alors, le moment où de fait, Israël s'est ouvert à l'au-delà, ça n'a pas été à partir d'une philosophie, ça n'a pas été à partir de mythes, c'est de la relation qui s'est nouée entre le priant, le psalmiste, et Dieu lui-même. Et vous le voyez, c'est peut-être un des passages dans l'Ancien Testament qui dit le mieux, eh bien, comme on passe tout d'un coup dans la possibilité qu'il y ait un au-delà. Que dirai-je dans le ciel? Avec toi, je suis sans destin sur la terre, et ma chair et mon cœur sont consumés, roc de mon cœur, ma part, Dieu à jamais. Autrement dit, vous la voyez, c'est l'expérience de Dieu qui fait tout d'un coup, eh bien, surmonter le mur de la mort elle-même. Donc, il y a eu un travail dans l'Ancien Testament pour penser l'au-delà. et qui n'étaient pas uniquement, dans le mode, je dirais, des philosophies ou des mythologies ambiantes. Je dis cela pour montrer qu'il y a du travail, peut-être pour vous, pour moi, ce soir aussi, hein, pour arriver à s'approprier ce qu'il a. Mais je prends un autre cas, hein, dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il reviendra. Pas de problème. Hein? Le problème se pose, il n'y a pas de problème. Le problème va se poser lorsque tout d'un coup, il y a un chrétien qui meurt. Hein? Qu'est-ce qui va arriver de lui? Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Hein? Tant ça ne me touche pas, ben là, je suis d'accord. Et voilà que, à l'église de Thessalonique, des chrétiens meurent, et alors, bon, mais c'est le désarroi. Qu'est-ce qu'il va advenir pour eux? Ils ne seront pas là, hein, lorsque le Seigneur va revenir dans sa gloire parmi nous. Hein. Et donc, on se demande ce qu'il en est. Et on voit à ce moment-là, c'est à ce moment-là que Saint Paul, voyez, c'est sa première grande réponse, hein, dans le Nouveau Testament, eh bien, je vous la lis, hein, c'est important. Alors, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des sommeillants, hein, ou de ceux qui vont mourir, qui sont morts, quoi. Hein, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. On voit bien, nous avons à rendre compte d'une espérance qui est en nous. Hein, et donc, vous n'avez pas à avoir de l'ignorance. Hein. Si en effet... Voilà le fondement. Si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, de même aussi Dieu, à cause de Jésus, conduira avec lui, hein, les somnolents. Autrement dit, ils sont dans un lieu de Sheol, et pourtant, à l'intérieur de cela, eh bien, il y a Dieu qui les conduit. En effet, hein, eh bien, nous vous disons ceci sur une parole du Seigneur, que nous, les vivants, les laisser pour la parousie du Seigneur. Autrement dit, il croit encore qu'il n'aura pas à mourir, saint Paul. Il croit qu'il sera là pour le retour du Seigneur. Eh bien, votre consolation, c'est que, eh bien, nous ne devancerons pas ceux qui sommeillent, comme si on avait une position privilégiée. C'est-à-dire que le Seigneur, et là on tombe dans toute la littérature, on peut dire, apocalyptique, était un peu comme une matrice même dans les évangiles pour Jésus. C'est-à-dire que le Seigneur, au signal, à la voix de l'archange, à la trompette, descendra du ciel, à la voix, et les morts se lèveront, ou ressusciteront d'abord. Et nous, les vivants, on n'est pas encore morts, les laisser. Alors, ensemble avec eux, nous serons ravis, eh bien, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et la dernière phrase, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Là, en tout cas, c'est la phrase clé, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, vous voyez, il y a ce qui est arrivé à Jésus, mais le temps qu'il faudra, hein, pour s'approprier cela, et tout d'un coup, même pour saint Paul, hein, d'en arriver, eh bien, à concéder que lui-même, eh bien, devra mourir pour pouvoir, eh bien, avoir part, on peut dire, à la parousie. Et on voit le travail que ça implique de sa part, parce qu'à un moment, dans la deuxième livre de Corinthiens, hein, il nous dit combien lui-même est partagé, il est déchiré. Hein. Il dit, voilà, nous avons notre enveloppe, notre temps, qui est notre corps terrestre, et alors, il y a sur là-dessus, il y a l'édifice qui est l'œuvre de Dieu, qui est la maison éternelle. Hein, par exemple, le corps et la maison que le Seigneur nous construit. Il dit alors, et nous gémissons, hein, nous sommes dans les gémissements, car on voudrait bien pouvoir se revêtir par-dessus, sans avoir à nous dévêtir. Hein. On aimerait bien avoir le corps de gloire, sans avoir à mourir, peut-on dire, à nous dévêtir de notre corps de chair. Hein. Et alors, du coup, avec hardiesse, parce qu'il n'y a pas le mot, hein, mais plein de hardiesse, nous préférons, s'il le faut, quitter, hein, ce corps. L'important était d'abord, eh bien, de lui plaire à lui. Et que ce soit dans ce corps ou non. Hein, on voit bien ce que je veux dire par là, il y a un travail. Hein, un travail, dans, même chez saint Paul, pour s'approprier ce que la résurrection du Christ. Hein, et viendra ce moment apaisé, peut-on dire, eh bien, dans l'épître aux Philippiens, hein, où là, il sera dit, ben, enfin, disons, hein, un gain pour moi serait d'être avec le Christ au ciel, mais je suis prêt à rester avec vous hein, si c'est votre profit. Donc, on voit l'idée de sa mort est acceptée. Ce qu'il y a à retenir, en tout cas, de tout cela, parce que tout cela concerne, je ne veux pas passer au sérieux, aux choses sérieuses après, mais ce qui est, voyez-vous, en tout cas, hein, ce qui est dominant, hein, d'abord, c'est être avec le Christ, et c'est surtout son retour en gloire. Hein, tout se mesure à partir de là. Et pour tout le premier millénaire, eh bien, on pourrait dire, c'est qu'il y a, on appelle ça eschatologie collective, c'est-à-dire que ce qui est premier, c'est le retour du Christ à la fin des temps. Et c'est là le sujet de notre espérance. Et de cet entre-deux, avant qu'il revienne, bon, il y a peut-être les saints, hein, les martyrs plutôt, hein, vont au ciel, c'est leur dies natalis. Mais pour les chrétiens en général, eh bien, on va parler de paradis, mais le mot paradis n'a pas le même sens de nous irons tous au paradis. Hein. C'est ici, au fond, c'est finalement un peu le shéol, hein, le lieu, on est avec Jésus, mais en même temps, eh bien, un lieu d'attente. Les choses sont encore, il hein, faut bien dire, prennent du temps. L'enfer, ça c'est acquis. Hein. Le premier siècle, eh bien, ceux qui ont commis les trois péchés, irrémissibles, c'est-à-dire, ils sont irrémissibles parce qu'il faut passer par le sacrement de pénitence pour pouvoir qu'ils soient remis, c'est-à-dire homicide, c'est-à-dire adultère, c'est-à-dire idolâtrie. Hein. Voilà, ce péché-là, hein, condamne au feu éternel. Et alors, il y a tout de même, même si c'est, il y a encore aussi un lieu de purification, aussi bien en Orient qu'en Occident, mais voilà ce qui en est, jusqu'au droit premier millénaire. Et c'est pour vous montrer que finalement, ce n'est pas seulement de la théorie, hein, mais ça a passé par la vie hein, de l'Église, ça a passé par la vie des chrétiens. On arrive alors au deuxième millénaire. Alors, il se passe ceci, c'est qu'avec le deuxième millénaire, on est beaucoup plus soucieux, conscient, peut-on dire, de la personne. Hein. On devient un peu plus individualiste. Avec le deuxième millénaire, mais voilà, vous avez les béguines qui commencent à s'amuser à penser qu'elles pourraient voir la vision béatifique. Voilà. Vous avez Maître Eckhart. Vous avez en même temps eh bien, toutes les grandes synthèses théologiques qui se font finalement autour de la notion de voir Dieu. Hein, finalement. Alors, arrive là-dessus un pape, hein, le prédécesseur de Jean 23, Jean 22, hein, qui est en 1336. Donc, maintenant. Alors, pour la, à l'avant, hein, fait une série d'homilies hein, hein, sur les fins dernières en se référant à Saint Bernard et qui laisse entendre, voyez-vous, que eh bien, voilà, c'est l'image dans le livre de l'Apocalypse que les saints sont sous l'autel, quoi. Hein? Ils sont dans la tente, quoi. Hein? Et alors, donc, le fait, on attend encore la vision béatifique, on attend encore, ce qu'on peut dire. Alors, ce qui crée un tollé, hein? Autrement dit, il était décalé, quoi. Il n'avait pas saisi que les choses avaient avancé, quoi. Et vous voyez bien, c'est le pape suivant, à ce moment-là, un élément très, très important, qui de fait, hein, va à ce moment-là sortir une constitution apostolique qui commence par les mots définition et qui alors eh bien, dit que aussitôt après la mort, et vous voyez, hein, il a fallu que la doctrine s'accorde avec ce que tout d'un coup a été ce qu'on appelle le sensus fidelium, le sens des chrétiens, hein, et que donc aussitôt après la mort, eh bien, ceux qui sont justes, ceux qui ont tout baptisé, à moins qu'il ait besoin d'une purification, eh bien, voient Dieu et le voient Dieu face à face. Hein? Non. Je vais le texte. Ouais. Aussitôt, je lis. Aussitôt après leur mort, hein? À moins qu'il y ait quelque chose de pur à purifier, avant même la résurrection générale des corps et le jugement général. Alors, ont été, sont et seront au ciel, au royaume de Dieu et au paradis avec le Christ. Et alors, ils vont de face, ils verront l'essence divine d'une vision intuitive, c'est-à-dire face à face. Et cette vision, c'est ce qui les rend bienheureux. C'est la vision béatifique, j'en dirai un mot tout à l'heure. Par ailleurs, que ceux qui meurent en état de péché mortel hein, descend en effet aussitôt après la mort. C'est le aussitôt. Hein. Et alors, finalement, tous, voilà, on remet ça, tous qu'on reparaîtront au jour du jugement devant le tribunal de Dieu avec leur corps. Donc, l'âme, hein, au moment, c'est l'âme, à ce moment-là, au moment de la mort. Et alors, tous comparaîtront avec leur corps, eh bien, au jugement dernier. C'est ce qu'on peut appeler le passage d'une eschatologie collective à une eschatologie individuelle. Et ce texte de Benedictus Deus a eu une influence énorme. Tous nos catéchismes reprennent cela. On pourrait dire que jusqu'aux années 50, c'est eux qui ont été comme la matrice de la culture occidentale. Ça demeurait une référence que tout que cela. Hein? Ciel, purgatoire, enfer, hein? Comme c'est expliqué là. Et donc voilà, hein? Pour vous dire qu'il y a eu un travail, on ne pense pas. Et je dirais que pour nous, parce qu'on voit bien qu'il y a une mutation, hein? On voit bien qu'il y a, aussi des transformations qui ont lieu et qui déjà peut-être ont lieu. Hein? Que voulez-vous ? Il faut pouvoir les entendre, les énoncer. Hein? Non pas pour les adapter à nous, hein? Mais pouvoir eh bien, les entendre. Et il est fort possible, voyez-vous, que jusqu'à maintenant, hein, voilà, il y a tout un monde, je dirais, de localisation. Hein? On localise. Saint-Thomas, l'affaire était sous terre, au-dessus, parce que ça chauffe un peu moins, le purgatoire, et au ciel, eh bien. Bah, il y a eu tout un imaginaire hein, et qui maintenant ne fonctionne plus hein, comme tel. Donc, et par ailleurs, eh bien, les réalités qui sont là, on doit pouvoir se le réaffirmer à partir d'une personne et qui est la personne du Christ. Non, vous le voyez, jusqu'à un certain point, il faut peut-être, parce qu'autrement ça ferait obstacle, eh bien, se défaire de certaines images et que les gens disent, enfin voilà, hein, c'est un peu naïf, hein, hein, mais pour rejoindre ce que sont ces énoncés-là à partir de la personne du Christ. Donc, voilà pour cela, maintenant, pour vous dire que c'est peut-être notre travail, hein, à nous, chacun, hein, à partir de ce que, eh bien, nous vient de l'Église. Je rentre maintenant dans les énoncés. Je lis le texte qui est là. Il viendra juger les vivants et les morts. Chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort en un jugement particulier. Donc, on voit Benedictus Deus qui réfère sa vie au Christ, soit à travers une purification, soit pour entrer directement dans la béatitude du ciel, soit pour se damner immédiatement pour toujours. Constatons ceci, hein? Ça c'est quoi qui est très important. Hein? Les fins dernières partent d'un acte du Christ. Ce n'est pas nous. Hein, hein, hein. Ça part, c'est d'un acte du Christ lui-même. Et on voit que cet acte ici, qui est cet acte de jugement, c'est lui qui produit la, ce qu'on pourrait appeler la ventilation. Ciel, purgatoire ou enfer. Bon. Alors, ce qui montre tout de même, eh bien que cette phrase hein, qui nous vient du Credo, il viendra juger les vivants et les morts, est une phrase capitale. Hein? On pourrait dire, voyez-vous, elle est au fondement même de notre espérance. Espérer, c'est attendre d'un autre ce qu'on ne peut pas se donner par soi-même. Hein? On désire le ciel. On ne peut pas, de toute façon, on ne peut pas se le donner. De toute façon, il y a la mort. La mort est un élément d'espérance. Hein? Et donc, c'est donc attendre, espérer d'un autre ce qu'on ne peut pas se donner soi-même. Et c'est le cas ici, voyez-vous, hein, eh bien, de l'importance qu'a tout de même eh bien, le jugement. Nous serions portés, si on réécrivait nous-mêmes le credo, a dit, il viendra nous sauver, il viendra sauver les vivants et les morts. Le credo nous dit, il viendra juger les vivants et les morts. Ce qui veut dire ceci, hein, c'est qu'il faut avoir, oser faire confiance dans le jugement d'un autre. Osez croire que le jugement d'un autre sur soi-même est peut-être eh bien, plus juste que celui qu'on est porté à se donner à nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire hein? Et donc, de ce point de vue-là, on est transporté hors de soi. Or, ici, eh bien, le Christ est encore, finalement, eh bien, le meilleur juge. Il est tout de même, eh bien, celui qui a donné le prix de son sang pour nous. Et donc, oser faire confiance à un acte, parce qu'un acte, un jugement, c'est un acte. Et un jugement, un jugement porte sur des actes qu'on a posés. Et pour donner aussi donc la juste rétribution. Autrement dit, celui qui nous juge est en même temps, et bien, voyez bien, c'est celui qui est mort et ressuscité pour nous. Au fond, les fins dernières, c'est ceci, voyez-vous. Ce que le Christ a fait à la croix, lui-même, mort et ressuscité, pour juger le prince de ce monde, eh bien, c'est ce même acte, c'est ce même geste, eh bien, qu'il fait envers chacun et chacune d'entre nous. Autrement dit, vous le voyez, en nous configurant de ce point de vue-là, c'est un mystère de mort et de résurrection, eh bien, ça nous touche précisément au moment de la mort. Que dans notre mort, eh bien, on soit configuré à lui. Pour nous ouvrir à ce qu'on ne peut pas se donner nous-mêmes, et qui est du domaine, eh bien, de la résurrection. Donc, voilà, c'est pour ça, le traité de fin dernière passe par un acte, d'abord, qui n'est ne relève pas de nous, mais qui en même temps dépend de nous, dans la mesure où on ose faire confiance. Faire confiance, à ce moment-là, c'est un jugement de salut. Ne pas oser faire confiance, eh bien, c'est se refuser au salut. C'est s'enfermer sur soi-même. C'est ça, l'autre aspect, la damnation, l'enfer. Comme il dit ici, le texte, il se damne eux-mêmes. Non, on ne se damne pas soi-même parce qu'il y a déjà eu un acte du Christ. Personne ne les juge pour le voir tout seul. Il y a un acte du Christ, mais qu'on n'a pas accepté et qui le fait conduit à sa propre damnation. Donc, voilà, je dirais, donc, de ce point de vue-là, le jugement est très important. Alors, passons maintenant à la mort. Alors, la mort, voilà. Je vous lis le texte qui est là. Ça va vous surprendre. Interprète authentique des affirmations de la Sainte Écriture et de la tradition. Donc, interprète authentique. Le magistère de l'Église enseigne que la mort est entrée dans le monde à cause du péché. Bien que l'homme possède une nature mortelle, Dieu le destinait à ne pas mourir. La mort fut donc contraire au dessein du Dieu créateur. Elle entra dans le monde comme conséquence du péché. La mort corporelle à laquelle l'homme aurait été soustrait s'il n'avait pas péché est ainsi le dernier ennemi de l'homme à devoir être vaincu par le Christ. Ça revient au moins à dire ceci. Tous les hommes meurent. Bon, c'est pas seulement une donnée statistique, en disant que jusqu'à maintenant, c'est arrivé. Que tous les hommes meurent, c'est une donnée théologale. Bien entendu, ça veut dire, bon, Adam serait mort. De toute façon, ça aurait été infernal que de vivre 2000 ans. Voilà. Et donc, il serait mort d'une mort naturelle. Il serait mort probablement, d'une façon, autrement dit, qui aurait été comme l'expression de l'accomplissement de lui-même. Ça n'aurait pas été un obstacle que la mort. Elle serait venue. Voilà. Tandis que pour nous, dans le monde où nous vivons, eh bien, la mort est malgré tout toujours ressentie comme une épreuve et comme une agression. Elle n'est pas une chose évident, j'imagine comment elle aurait pu l'être pour Adam lui-même. Donc, autrement dit, ce n'est pas nié que du point de vue biologique, mais l'homme a une fin. Mais, eh bien, et que comme je vous disais, ça avait été Adam, s'il n'y a pas eu de péché, ça aurait été comme dans un dépassement de soi-même, on pourrait dire actif, parce que la mort est un acte, tout le monde, je meurs. Je l'ai subi, mais en même temps, il y a un jeu là-dedans. Là, le jeu, dans un accomplissement de lui-même. Voilà. alors que pour nous, d'une façon ou d'une autre, eh bien, elle apparaîtra toujours comme une épreuve, une agression, et eh bien comme finalement aussi, à un moment donné, aussi eh bien, le pari, on pourrait dire, du plein ou du vide. Hein, parce qu'on ne peut pas savoir la part de là, derrière l'âme. Donc, voilà. Deuxième, ça c'est la première affirmation à retenir sur la mort. Peut-être, au moins, voilà, on n'y avait jamais pensé peut-être. Hein, mais voilà. Donc, c'est pas seulement une donnée statistique. Et malgré tout, les progrès théologiquement, voilà. Deuxième affirmation, hein, qui en même temps, elle est évidente, mais elle n'est pas évidente. Hein, c'est que la mort marque la fin de notre condition pérégrinante. Autrement dit, là, eh bien, nous sommes devant une affirmation dogmatique qui n'est pas en tout point évidente. Ça revient à dire ceci, que nous n'avons qu'une vie et que c'est sur la durée de cette vie que se joue notre destinée éternelle. Pas évident. Surtout que ça se joue souvent en clair obscur. Et ça veut dire en même temps, eh bien, qu'elle soit longue, qu'elle soit courte, qu'elle soit telle qu'elle est, eh bien, que toute vie, dire cela, c'est aussi dire que toute vie a une valeur inaltérable. Qu'elle soit celle d'un enfant mort nouveau-né, ou que ce soit celle, eh bien, d'un vieillard, autrement dit, c'est sur la durée d'une vie que se joue, eh bien, là, notre destinée éternelle. Ce qui donne sa valeur, son poids. Et on pourrait dire, de ce point de vue-là, eh bien, le poids d'éternité qu'il y a donc à chaque vie humaine, quelle que soit. Et à l'intérieur de quelle, malgré tout, il y a la lucidité, puisque cela, c'est honorer la liberté. Hein. Honorer la liberté, c'est de pouvoir dire que d'une façon durant cette vie, elle a la capacité de pouvoir dire oui ou non à Dieu. Donc, voilà une deuxième affirmation qui n'est pas, il faut bien la reconnaître, on l'entend comme un coup sur la tête. Voilà, c'est ce que la théologie nous dit. Toute vie se joue un destin éternel, bon, devant Dieu. Le troisième élément qu'on pourrait dire, pour ajouter, pour parler maintenant de la mort, le premier, je vous disais, bon, universel. Deuxièmement, la vie est unique. Et le troisième, c'est que d'une façon ou d'une autre, il y a séparation de l'âme et du corps. Bon, ce n'est pas une vérité biblique au sens propre du terme, en ce sens que le mot « âme » est un mot qui vient de la philosophie grecque, beaucoup plus, peut-on dire, que de la Bible. Hein, où là, c'était en Néphesh, ou encore c'était le Sheol, ou encore on est encore au Sheol, enfin ce lieu d'attente avec Jésus. Ici, bon, voilà, il y a « âme » et qui est authentifié, je dirais, par la tradition. D'abord, il y a ce fait indéniable qu'à la mort, eh bien, il y a une séparation de ce qu'on appelle l'âme avec le corps. Deuxièmement, elle est essentielle pour nous, pour être capable de penser ce que je vais vous dire après, tout de même, la différence, la distinction qu'il y a entre le temps où je meurs et alors la résurrection du Christ. Alors, vous voyez, on est devant ceci, c'est qu'on ne peut pas transposer naïvement dans l'au-delà nos catégories de temps. Bon. Par ailleurs, pour respecter ce que l'on est dans notre nature, l'intégrité de notre nature humaine, il est impossible d'une façon ou d'une autre et de ne pas faire intervenir. Parce que notre éternité n'est tout de même pas celle de Dieu de toute éternité. On a eu un commencement, lui n'en a pas eu. Voilà, hein. Et donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas ne pas faire intervenir, entre autres, des temps, ou un temps intermédiaire, et qui est celui, par exemple, entre la mort personnelle et alors, le moment de la résurrection finale. Ce qui implique, d'une façon ou d'une autre, il y a un temps où l'âme est là, toujours orientée vers le corps. C'est magnifique, Saint Augustin dit que de fait, tant que l'âme ne retrouve pas son corps, eh bien, elle ne peut pas voir Dieu paisiblement. tout le fort, hein, de la part d'un néoplatonicien comme Augustin. Hein, hein. C'est bon signe que le fait est dans la théologie chrétienne, il y a tout de même un lien, une distinction, il y a un lien, une orientation de l'âme vers le corps. Alors ça, c'est le troisième élément, parce que j'en reste là pour ce qui regarde, vous voyez, les trois, je vous ai dit, bon, ça serait de voir, bon, il faudrait dire, ben voilà, comment est-ce qu'on la vit, cette mort, hein? Il y a un jeu. Un jeu, alors, qui, de fait, finalement, souvent, va se dire, eh bien, dans le plus grand dépouillement, hein, de lui-même. Hein? Ce que c'est que la mort comme telle, voyez-vous, c'est le moment, on pourrait dire, où le temps est contigu de l'éternité, hein? Puisque le moment de la mort est le moment où on entre dans l'éternité. Et de ce point de vue-là, ce qui se passe en chacun, eh bien, nous échappera toujours. Ce n'est pas ce qu'on constate extérieurement qu'on sait exactement, eh bien, ce qui se passe à ce moment-là dans la rencontre entre Dieu et la personne. En même temps, hein, c'est ça, il dit, l'acte où on meurt est en même temps l'acte où s'opère le jugement. C'est pas, et vous, c'est pas en dehors du temps, alors que ça va rentrer dans l'éternité. C'est pas qu'on est mort, parce qu'il y a eu des théories, comme quoi, mais voilà, on ne peut rien faire vraiment d'intelligent, de conscient, ici-bas. C'est seulement après la mort que, du coup, on peut prendre une décision pour ou contre Dieu, lucidement. Faux, hein? S'il y a une décision, elle se prend dans notre histoire, ici-bas. Mais ce moment-là est précisément le moment où, en mourant, eh bien, il y a notre acte, et en même temps, il y a l'acte du Christ lui-même, qui, lui, est l'acte, comme je disais, du juge, qui juge, hein, qui accueille, dans son mystère de mort et de résurrection, hein, et qui fait, selon qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, eh bien, porte du mouvement, hein, conduit soit à la béatitude, ou encore, eh bien, hein, au refus lui-même. Donc, vous voyez, et de ce point de vue-là, le plus beau, ben, j'en reste là, mais je faisais il y a quelques jours un petit article pour Pastoralia sur l'onction des malades et le viatique. Mais le viatique, de fait, comme tel, on n'y pense pas souvent, est un acte obligatoire pour un chrétien comme tel. On est tenu par obligation. Et quel est cet acte-là? Ce serait, non pas nécessairement la dernière, hein, communion, mais c'est un acte profondément humain, hein? Et on sait que la mort est là, qu'elle est inéluctable, et c'est cet acte dans lequel on l'accepte en s'unissant au corps et au sang du Christ. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Hein? Là, on aurait, à ce moment-là, on ne fait pas toujours ça comme ça, mais voilà, c'est à peu près, eh bien, ce que c'est que la mort elle-même. Bon, nous en arrivons, parce que c'est le thème, hein? Donc, c'est la vie éternelle, hein? Que je sois en la vie éternelle. Parce qu'il ne faut pas, faut pas oublier purgatoire et enfer. Hein? Alors, donc, on voit bien, donc, ce qui est à l'arrière-plan, hein, penser la vie éternelle, eh bien, c'est la vision de Dieu. Vous avez ici de Saint Jean, hein? Nous le verrons, hein, tel qu'il est, face à face. Et alors, il y a cet autre aussi, qui vient de 1 Corinthiens 13, l'hymne à la charité. Il est dit maintenant, hein? Eh bien, à présent, hein, nous le voyons en figure, de façon confuse, et alors nous le verrons, eh bien, face à face. Donc, ce qui distingue, finalement, l'ici-bas de l'au-delà, c'est qu'ici-bas, on ne voit pas, et là, on verra. Ici-bas, nous sommes dans la foi, eh bien, là, eh bien, ça sera dans la clarté. C'est ça qui est la distinction. Par ailleurs, nous aimerons dans l'au-delà de l'amour même dont nous aimons Dieu ici-bas. Autrement dit, il y a un élément de continuité entre l'ici-bas et l'au-delà. Théoriquement, en tout cas, quelqu'un sur terre, hein, pourrait poser un acte d'amour de Dieu, hein, encore plus vrai qu'un bienheureux au ciel. Vous pouvez aimer, hein, votre épouse, même quand vous êtes à distance de quelques kilomètres. Autrement dit, la distance comme telle n'affecte pas la qualité de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas parce qu'on se voit, hein, qu'on s'aime. Hein? Autrement dit, ce qui est important, c'est que penser l'au-delà, penser le ciel, c'est en même temps se rendre compte de la profondeur, de la vérité, si on peut dire, eh bien, de notre vie ici-bas sur Terre, qui est aussi déjà une vie avec le Père, le Fils et l'Esprit, et qui de fait, eh bien, constitue aussi tout le niveau, tout le tissu des relations eh bien, que nous avons. Hein. Donc, vous la voyez, c'est la phrase qui était là, que là. Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu et qui sont parfaitement purifiés vivent toujours avec le Christ. Donc, ils sont semblables à lui parce qu'ils le voient tel qu'il est. Donc, voir Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord, c'est le voir face à face. Hein. Et alors, donc, de ce point de vue-là, eh bien, dans cet acte-là, eh bien, je vois Dieu tel qu'il est. Et en même temps, voyez-vous, nous sommes dans un autre monde que pourrait être le monde de toutes les religions orientales. Cet acte de voir est tout de même un acte que je pose en tant que créature. Qui me consacre dans ma qualité, dans ma valeur de créature éternellement avec Dieu et devant lui. C'est le grand mystère que le fini, parce qu'on demeure toujours fini dans l'au-delà, puisse être capable eh bien, de voir, hein, de vivre de l'infini. Mais c'est cela qui est là. Alors on voit Dieu donc l'accomplissement. C'est d'ailleurs pour ça que la béatitude. La vision de Dieu béatifie, c'est qu'il y a un accomplissement de ma condition de créature. Bon, je vois Dieu. Je le vois, bien entendu, comme on disait, de façon intuitive, face à face. Il ne se cache pas à moi. Il se donne vraiment tout ce qu'il est à moi. Et en même temps, je ne l'épuiserai jamais. Autrement dit, on ne s'ennuiera pas au ciel. On n'est pas là à regarder de façon statique, hein, une image. Hein. Autrement dit, comme dit saint Thomas, il se donne totus, hein, sans réserve, et pourtant, en même temps, non totalitaire, c'est-à-dire non totalement, ce sens qu'on aura toujours à entrer davantage eh bien, dans son mystère tel qu'il est. Donc, il y a une dynamique, si on peut dire, eh bien, à l'au-delà comme tel. Alors, en même temps, eh bien, au ciel, c'est ça, il est là, il y a les saints, hein. Il y a aussi, eh bien, chacun entre nous. Le ciel, comme, bon, si on regarde les catéchismes, on dit, mais chacun recevra selon, hein, il y a des demeures, chacun recevra selon ce qu'il a fait sur terre. Bon, on peut se dire, mais enfin, hein, c'est peut-être que je suis en retard moi-même, hein, mais au fond, autrement dit, chacun sera unique, autrement dit. De ce point de vue-là, il n'y a pas de comparaison. Un peu comme entre les étoiles, elles sont dans le ciel, mais elles ne sont pas à se comparer les unes aux autres. Chacun est pleinement, je veux dire, comblé, hein, dans le Seigneur. En même temps, vous le voyez, ça, il ne faut pas oublier, il y a aussi cet aspect que, eh bien, c'est aussi toutes nos relations humaines rentrent là-dedans. Hein. Ce n'est pas parce qu'on arrive au ciel qu'on va s'ignorer les uns les autres. Hein. Mais qu'il puisse avoir une préférence ne causera pas un mari vis-à-vis de son épouse. Bon, c'est excusable, même dans l'au-delà, quoi. Ça ne crée aucun type d'ombrage à qui que ce soit. Vous voyez, je dirais la plus belle image qu'on peut avoir, parce qu'il faut éviter de tomber dans des imaginaires. Hein. La plus belle image qu'on peut avoir de ce qu'est le ciel, je dirais, c'est ici-bas, sur terre. En ce sens que ça passe par beaucoup d'épreuves, par beaucoup de difficultés, par beaucoup de luttes. Mais pensez vous-même à ces moments dans votre vie, hein, qui ont résisté à l'épreuve du temps, hein, à ces moments tout de même qui ont leur poids, soit avec Dieu, soit eh bien, la relation avec les autres. Eh bien, tout ce qui déjà, ici-bas, a un certain poids d'éternité, nous met sur la piste réelle de ce que sera eh bien, le ciel. Voilà pour ce qui regarde. Maintenant, une des choses plus intéressantes, le purgatoire. Je lis les textes qui est là. Eh bien, ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification, afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. Je continue. L'Église appelle purgatoire cette purification finale des élus, qui est tout à fait distincte du châtiment des damnés. La tradition de l'Église, faisant référence à certains textes de l'Écriture, parle d'un feu purificateur. Bon, en tout cas, l'enseignement de l'Église s'appuie aussi sur la pratique de la prière. Donc, je dirais d'abord, avant d'entrer dans le sujet, que l'âge d'or du purgatoire, ça a été le 19e siècle. Il n'y a jamais eu autant de congrégations, autant d'hôtels particuliers. Bon, curé d'Ars avait grande dévotion aux âmes du purgatoire. Mon Ligéon, je crois, a une banque de données d'âmes du purgatoire vraiment impressionnante et tout ça. Donc, autrement dit, on peut dire, c'est ça qui est tout de même, c'est pour prendre la mesure de ce qu'ont été les années 50-60, comme cassure. Et que maintenant, voilà, qui donne, qui fait dire une messe pour les âmes du purgatoire? Bon, moins qu'avant, en tout cas. Et alors, même, je vois au Vietnam, ils font même dire des messes pour les âmes orphelines, c'est-à-dire celles qui n'ont pas de protecteur, personne n'a pas de famille pour prier pour elles. Donc, vous avez donc, c'est pas si lointain qu'il y avait une dévotion fervente aux âmes du purgatoire. Deuxièmement, je dirais, avant d'entrer dans le sujet, je dirais, voyez-vous, beaucoup disent, on n'a plus besoin du purgatoire. On ne se rend pas compte de ce qu'on a perdu. Le purgatoire constituait en quelque sorte une interface entre le ciel qui est trop haut et nous qui sommes sur terre. Que voulez-vous? On avait des âmes dont on s'occupait. Et c'est tout de même quelque chose. Et alors, donc, je dirais, on avait un monde qui était, un au-delà qui était peuplé. Et souvent, avec des relations qui s'y mettaient au point de vue familial et tout. Donc, de ce point de vue-là, je dis ça seulement comme parenthèse, nous perdons, pour nous-mêmes, à ne plus avoir des êtres, plus sentir que des gens qu'on doit aider tout de même. Et qui sont donc dans ce lieu qui est le purgatoire et qui n'est pas encore eh bien, le ciel comme tel. J'ajoute ceci. Nous avons vidé le ciel, eh bien, on le remplit de nouveau avec la réincarnation. Le purgatoire, au moins. On a vidé le purgatoire. Et il y a beaucoup de gens, voilà, qui s'occupent. Il faut bien mettre quelque chose. On y met d'une façon ou d'autre. À notre sauce, à nous occidentales, eh bien, la doctrine de la réincarnation. J'en viens maintenant plus concrètement, plus sérieusement, à la théologie du purgatoire. Vous le voyez, bon, c'est normal, l'Église doit parler, elle doit mettre, autrement dit, comme des temps. Lorsqu'elle va parler, par exemple, pour elle, le jugement vient après la mort. Que tout mettre ensemble. Ici, il est dit que le purgatoire, il vient avant le ciel, quoi. Un antichamp, si on veut. Voilà. Bon, il y a un seul point sur lequel, je crois, là, je ne tergiverserai pas pour transposer une catégorie de temps dans l'au-delà. C'est précisément entre la mort individuelle et la résurrection finale. Là, il y a un temps intermédiaire. Mais ici, je dirais ceci, voyez-vous. J'en reviens là. Le purgatoire, il faut éviter la notion de location aussi, de lieu. Le purgatoire n'est pas un lieu plus ou moins sans fenêtre, un peu brouilleux. Ou alors, on chauffe, mais on est là. Autrement dit, avant d'entrer dans le ciel, avant d'entrer dans la vision béatifique, on subit certaines purifications. Au fond, je dirais ceci, voyez-vous. C'est parce qu'on voit Dieu qu'on souffre de l'écart qu'il y a encore entre lui et nous. La souffrance ici, elle n'est pas une souffrance physique. Elle est la souffrance que vous pourriez ressentir vous-même à un moment donné, quand vous sentez que vous avez loupé quelque chose, que vous n'avez peut-être à la hauteur d'une situation. C'est parce qu'on le voit eh bien, qu'on souffre de l'écart qui est encore, du poids de notre vie, du poids des actes qu'on a posés, et même par rapport à d'autres. Hein. Mais c'est pas seulement par rapport à soi-même. On a laissé des traces sur Terre, n'est-ce pas? Hein. Des bonnes, peut-être des moins bonnes aussi. Hein. Eh bien, voilà ce qui fait, me semble-t-il, en son fond, eh bien, la réalité du purgatoire. Et alors, voilà, pour dédouaner les choses, je dirais, donc ce n'est donc pas un lieu de châtiment. C'est un lieu où on subit. On ne fait rien, en un sens, on n'est pas là à gagner des mérites, on n'est pas là à se convertir, on est avec Dieu. Autrement dit, à la mort, il n'y a que deux possibilités, le pardon ou le refus du pardon. Hein, voilà, si on est pardonné, on est avec Dieu. Et donc, de ce point de vue-là, on est déjà dans la vision de Dieu. Mais avec la souffrance tout de même, eh bien, de ce qu'on porte encore et qui nous tient comme à distance par rapport à lui. Et qui est une souffrance que l'on subit. Hein. Combien de temps? 1000 ans sont comme un jour. Un jour comme 1000 ans. Ça peut être très... On est dans une autre dimension, tant hein, que nos ordres, nos chronomètres et tout ça. Mais on voit, il y a tout de même un travail qui doit se faire précisément eh bien, pour... finalement, être à la mesure de ce qui, finalement, est notre amour et qui, tout de même, qui nous met déjà dans la vision de Dieu. C'est comme ça que, moi, je suis porté à voir le purgatoire. Maintenant, ce qui serait intéressant... Ah oui, oui hein. Alors, notre Thérèse de Lisieux, elle est magnifique, hein, parce que elle a l'art de nous débouter, si on peut dire, de nos manières un peu trop légalistes, pénalistes, pour de voir les choses. Elle a dit ceci. Ce n'est pas le purgatoire, c'est vrai, mais le ciel qui est le... Elle parle d'une de ses sœurs. Ce n'est pas le purgatoire, mais le ciel qui est l'objet de notre espérance. Alors, aussi, Thérèse espère-t-elle d'aller tout droit au ciel, puisque c'est ça tout de même que Dieu veut. Elle dit ceci, Dieu ne veut pour aucun de nous la purification du purgatoire. Hein? Il ne l'impose qu'à regret. Il ne la veut pas, il l'impose à regret. Hein? 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 Ne craignez point donc le purgatoire, mais désirez n'y pas aller. Désirez n'y pas aller pour faire plaisir à Dieu. Vous le voyez bien, s'il y a encore une souffrance, elle est aussi un regret par rapport à Dieu. Ce n'est pas un châtiment qu'il impose, c'est ce fait qui, encore, si on peut dire, de notre part, bon, à l'épaisseur de ce qu'on est, et surtout les relations, hein, enfin, les responsabilités aussi qu'on a eues, parce qu'on est tout de même solidaire de beaucoup d'autres, qui font encore écran entre lui et nous. Voilà pour le nous allons à l'enfer maintenant. Je lis le texte. Mourir en péché mortel, sans être repenti et sans accueillir l'amour miséricorde de Dieu, signifie demeurer séparé de lui pour toujours par son libre choix. Et c'est cet état d'auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu et avec les bienheureux qu'on désigne par le mot « enfer ». D'auto-exclusion, mais cette auto-exclusion est consécutive à un acte hein, du jugement du Christ qu'on a refusé d'accueillir eh bien, sur soi-même. Bon. De fait, j'en traite maintenant, mais là, je me dis, en toute rigueur, ça réduit le premier sujet que je traite, hein, l'enfer. Parce qu'au fond, eh bien, nous sommes tous, si un salut, c'est qu'on est sauvés de l'enfer. Enfin, puisque le péché originel apportait. Et finalement, eh bien, c'est si on est conscient d'être sauvé de l'enfer, je dirais, on vit davantage nos vies peut-être dans la joie de la miséricorde de Dieu, et non pas comme quelque chose qui tout simplement va de soi. Mais passons par-dessus cela, venons-en, parce que nous, l'enfer, vous comme moi, malgré tout, ça nous impressionne plus ou moins, mais ce qui nous impressionne, c'est ceux qui peuvent aller en enfer. Et là, il faut bien reconnaître que nous sommes devant une des grandes difficultés, hein, et même, je dirais, au niveau de la raison humaine, une chose qui est un scandale, comment un acte, conjoncturel, comme cela, puisse conduire à des déchets, des faits péchés mortels, puisse conduire à une damnation éternelle. Et la damnation éternelle, c'est encore beaucoup plus loin que toutes les années-lumière qui nous séparent de milliards de galaxies autour de nous. On est hors du temps. Alors, comment est-ce que ça peut être cela? Et ça, la raison humaine. Mais en même temps, voyez-vous, ça nous met aussi, je dirais finalement, devant le mystère de la liberté humaine, qui nous dépasse, parce qu'il a d'inaliénable. Autrement dit, on voit la profondeur de l'amour de Dieu, et la profondeur aussi du refus de l'amour de Dieu. Bon, accueillons cela, ça nous dépasse. Enfin, voilà. Alors, par ailleurs, eh bien, très souvent, voilà, on voudrait tout de même être du côté, si Dieu était vraiment bonté, comment est-ce qu'il, s'il est vraiment bonté, comment serait-il qu'il permette cela? Et il y a même des âmes généreuses qui sont prêtes à aller en enfer avec la pauvre personne qui sera là, être solidaire d'elle par rapport à tous ces bienheureux qui sont là et qui semblent jouir de façon imperturbable, égoïste, de leur béatitude. Voilà, on peut tout imaginer. Bon, ne faisons pas cela tout de même. Mais je dirais ceci, voyez-vous, nous sommes là, quoi qu'il en soit. On est devant deux affirmations. L'une qui porte sur la damnation éternelle, l'Église a tenu contre toutes les tendances qu'il y a eues, même de la part de théologiens, à penser à une restauration universelle, que viendrait un moment où les damnés auraient vraiment acquis, épuisé, si on peut dire, leur peine, et qu'on aurait tout d'un coup, bon, qu'on appelait la apocatastase, l'Église a toujours refusé cela. Mais alors, je reviens à ceci, qu'il puisse avoir une damnation éternelle, et d'un autre côté, l'autre affirmation, la volonté de salut universel du Christ. Je dirais ceci en tout cas, la synthèse entre ces deux affirmations, elle nous échappe. Ou plutôt, s'il y a une synthèse, elle est en la personne du Christ, en qui nous mettons notre espérance. Vous voyez ce que je veux dire? Et surtout, eh bien, le fait que le Christ, on n'est pas uniquement des spectateurs, c'est que le Christ nous invite, chacun d'entre nous, autrement dit, à œuvrer à son œuvre, à collaborer avec lui, et finalement jusque dans la mort, précisément, eh bien, pour que son œuvre, que le salut universel s'accomplisse. Autrement dit, espérer pour tous passe par le prix aussi qu'on y met nous-mêmes en union avec le Christ. Ce n'est pas seulement un spectacle que l'on regarde, et ça nous fait toucher, sans dire, à ce moment-là, la, ce qui est eux-mêmes, parce que l'enfer nous met devant les profondeurs qu'on ne soupçonne, la dignité de l'homme qui est capable de dire non, alors même que Dieu fait tout pour aller eh bien, jusqu'à lui. Quel est le nombre de fois où il a connu l'échec, nous ne savons pas. Il reste encore 3 minutes, la résurrection de la chair. Vous le voyez, il y a 3, on pourrait dire, pour penser l'au-delà, il y a 3 voies possibles. L'une, c'est celle de la philosophie, et qui pense l'immortalité de l'âme. Et donc, d'un point de vue de l'âme, qui demeure malgré tout comme un peu esselée, comme une monade, elle est immortelle. La deuxième voie, eh bien, c'est celle de la réincarnation, qui, à vrai dire, n'est pas tout à fait une solution, parce que, d'une façon ou d'une autre, c'est une continuation de la vie sous un autre mode, soit à la manière indienne, hindoue, ou de fait, eh bien, il faut tout de même, son karma nous suit, Et il faut arriver à se délester de son karma en passant par différentes réincarnations. Ou soit, d'une manière un peu plus superficielle, qui est propre à notre accident, de rêver et tout d'un coup d'être réincarné dans une vie nouvelle qui sera là, vraiment celle-là réussie. Quoi. Voilà. Mais enfin, on voit bien qu'à ce moment-là, la réincarnation, la foi, elle implique une continuation, sous un autre mode de la vie, que vraiment un autre. Alors le troisième mode, qui est le plus surprenant, le plus qui fait difficulté, est celui de l'Église, et que la résurrection de la chair. Plus difficile à accepter donc philosophiquement. Ça revient à dire ceci, voyez-vous, nous ne sommes pas seulement une âme, nous avons un corps. Notre corps et tout fait partie d'un corps social. Notre corps fait partie du corps de l'humanité. Notre corps est le corps social, à la fois le corps auquel nous en dépendons et en même temps nous y apportons quelque chose. Si bien que de faire, voyez-vous, la résurrection rend compte de l'intégrité ou de l'intégralité de ce que l'on est comme personne. Et en même temps comme communauté de personnes, comme communauté de destin, et qui fait que de ce point de vue-là, on comprend que la résurrection ne peut venir que lorsque, au moment du retour du Christ, au terme de l'histoire, ou de fait, bien précisément, un sang et un jugement, chacun est rendu pour ce qu'il a fait, mais à l'intérieur, on peut dire, bon, la cité sainte, une communauté, et que nous sommes. Donc, vous la voyez, donc, de ce point de vue-là, je dirais, au niveau même de du respect de ce que l'on est, corps et âme, et en même temps individu, et en même temps membre en société, il faut penser, selon moi, un temps, ce qu'on appelle un temps intermédiaire entre le jugement particulier, ma propre mort, qui n'est pas tout simplement là à m'extraire de l'histoire des hommes, parce que je deviens de toute façon solidaire de cette histoire, ne serait-ce que par ma prière, par mon intercession. Alors donc, le jugement particulier et finalement le jugement général, qui de fait se fait, voyez-vous, là, non seulement sur l'âme, mais enfin sur la totalité de ce qu'on est, corps et âme. Alors je veux dire ceci, j'en reste là, on ne peut penser des fins dernières, c'est un monde, de toute façon, ça nous dépasse. C'est au-delà de ce que nos projections et tout cela. Il faut pouvoir en affirmer, d'abord, vous voyez, ça cadre notre vie chrétienne, et en même temps, eh bien, il faut pouvoir en même temps respecter, précisément son écriture, l'intégralité de ce que l'on est comme personne dans notre relation au Christ. Voilà. Donc, nous en restons là.